Mémoire d'un continent.
Ilikiam Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Pays de rêve, pays de cauchemar, le Libéria. Dans Libéria, il y a évidemment la racine du mot liberté. Ce pays a été en effet le pays par excellence de la liberté, puisque ce pays a été fondé par des esclaves, des Africains réduits en esclavage, vendus, partis aux États-Unis, qui ont fait famille là-bas et dont certains vont essayer de revenir dans leur société d'origine. Mais c'est le rêve du retour. Un retour conçu comme le moyen de la liberté dans beaucoup de colonies européennes aux Américains. Et en particulier dans la partie insulaire, les gens rêvent de ce retour à tel point que beaucoup souhaitent mourir en pensant que mourir, c'était le moyen de retourner au pays des ancêtres. Dans certains pays, on cite en particulier le cas de Haïti, lorsque quelqu'un meurt, il est fréquent que l'on dise « il est rentré en Guinée », c'est-à-dire en Afrique. Ce retour a été un problème très, très compliqué parce que ça n'est pas le seul pays qui est fondé à partir de ce type de retour. L'idée de retour a été d'abord une idée suffisamment développée chez les Africains devenus esclaves en Europe. On en a vu à partir du XVIIe siècle rentrer de manière individuelle. Au XVIIIe siècle, on en a vu de plus en plus formés dans les écoles d'Europe, souvent d'Europe centrale ou d'Angleterre, retourner dans leur pays, surtout essentiellement dans le golfe de Guinée. Le cas du Libéria est un cas tout de même à part. Lorsque le pays se forme et devient indépendant, en 1847, il prend comme devise, une devise en anglais, « The love of liberty brought us here », l'amour de la liberté nous a amenés ici. Ce pays étrange, avec une histoire dont il faut rappeler quand même les grands traits, vient de donner lieu à un livre remarquable, un roman historique ou une histoire écrite sous forme de roman, sous le titre tout simple « Libéria, roman ». Nous recevons son auteur, Christophe Néjean, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est vous qui avez commis ce roman il y a quelques mois, un gros roman de 500 pages, mais je le dis tout de suite, ça se lit, comme un roman d'aujourd'hui avec beaucoup de personnes. Très complexe, très différent. Comment dire, cette idée vous est venue d'où? Parce que sur le Libéria, on écrit plutôt des livres d'histoire ou des livres, des travaux, des textes de journalistes. Mais ceci, c'est un genre tout à fait particulier. Ça tient des deux un peu, mais c'est plutôt quand même un peu de l'histoire.
Oui, ça tient des deux. D'abord parce que, vous l'avez dit, ça tient d'une part du journalisme, hein, parce que j'ai été journaliste très longtemps et j'ai mis les pieds pour la première fois en Afrique en 1978 pour le voyage de Giscard d'Estaing. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Et j'ai terminé dans les années 2000. Entre-temps, évidemment, je me suis intéressé à toutes sortes de questions, notamment les questions liées à l'agriculture, à l'environnement, à l'alimentation africaine et tous ces vrais problèmes de développement. Parce que la politique m'intéressait moyennement, je ne voulais pas faire en Afrique ce que je ne voulais pas faire en France. Et ensuite, il s'est trouvé que à partir de 95, travaillant à la fois encore pour RFI, parce que j'ai eu une petite carrière de quelques années dans cette bonne maison.
Un bon retour à la maison.
Merci. Et il s'est trouvé que je suis devenu documentariste à un certain moment pour l'ancêtre de France 24. Et j'ai été amené à faire un certain nombre de documentaires sur des crises en Afrique. Le Rwanda, bien sûr, l'Afrique du Sud, la Somalie, l'Angola. Et j'ai terminé au Libéria où je me suis cassé les dents.
Parce que toutes ces guerres ont été horribles, tous ces conflits. Celui du Libéria est peut-être celui qui est allé, je veux dire, au bout de l'extrême avec des formes de violence inouïes. Parfois, on ne savait pas est-ce que les gens se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Est-ce qu'ils avaient l'impression qu'ils jouaient des rôles dans des pièces de théâtre ou dans des pièces de cinéma. Donc des situations très dures, bien sûr, et aussi très difficile à comprendre humainement et même intellectuellement.
Oui, il n'y a pas de guerre qui ne soit pas dure, mais celle-là était vraiment particulière. Avec les outils du journalisme, on arrive toujours à trouver des explications, en tout cas, sommairement, on arrive à trouver des explications aux conflits, au Rwanda un petit peu, en Angola c'était plus facile, les résidus de la guerre froide, les uns ont le pétrole, l'autre les diamants, on arrive à comprendre. Au Libéria, rien de tout ça, j'ai eu l'impression d'une espèce de folie collective qui gagnait également les étrangers au Libéria, c'est-à-dire les organisations internationales sont entrées dans cette espèce de jeu du déguisement, du faux, de l'apparence, et finalement où ce qui était sur l'écran des télévisions et des cinémas où on passait des films violents toute la journée, ce qui était sur l'écran était plus la réalité que la réalité qu'ils vivaient. Et comme dans un dessin animé où personne ne meurt, on peut recevoir un piano sur la tête et se relever immédiatement, les soldats, surtout les enfants, croyaient que la mort n'existait pas.
Mais pourtant, quand on tirait à boulet rouge sur des gens, ils partaient à perpétuité, si on peut dire.
Oui, mais c'était une espèce d'irréalité totale. Et y compris, je disais tout à l'heure, les Nations Unies, on a assisté un peu plus tard à des séances où les enfants soldats rendaient leurs armes, de démilitarisation de cette jeunesse, qui était entièrement fausse. Il suffisait d'être un peu attentif pour voir que même les organisations internationales montaient des scènes pour les journalistes. Et il suffisait de donner $100 et un enfant pouvait, devant votre caméra, couper une tête. C'était normal. Pour $10, il vous racontait une histoire d'enfant soldat qu'il n'avait jamais vécu, parce que ça devenait un job pour ces enfants des rues, que tous ces journalistes qui se présentaient là-bas et qui cherchaient des bonnes histoires à raconter parce qu'ils n'avaient que 3 jours à passer. Moi, j'y suis allé 4 fois et je suis resté à chaque fois un mois.
Et alors, l'idée de faire un, parce que là, nous sommes dans les années 1990, l'idée de revenir presque aux origines de ce pays, de cet État, de cette société, est venue un peu de ce choc face à une réalité incompréhensible.
Oui, dans ce chaos où, comme je l'ai dit, mes armes de journaliste étaient totalement inopérantes pour essayer d'y comprendre quelque chose, j'ai rencontré un homme, un Libérien qui s'appelle Henry Andrews, qui par la suite a eu un rôle à jouer dans les premières élections démocratiques qui se sont déroulées là-bas. Cet homme m'a reçu dans sa villa totalement dévastée, il restait une table et 2 chaises, et m'a dit « Écoutez, ici vous ne comprendrez rien, il faut retourner en arrière dans le temps, au 19e siècle, et il faut aller en Amérique, de là où l'idée du Libéria est partie. » Et remontez la chaîne doucement, petit à petit, et vous comprendrez pourquoi nous en sommes là, pourquoi il y a cette crise identitaire au Libéria. Aujourd'hui, les gens ne savent plus qui ils sont, parce qu'on leur a menti dès le départ.
Dès le départ, il y a eu réellement une sorte de foi qui a amené, donc lorsqu'ils disent « l'amour de la liberté nous a amenés ici », c'est qu'il y a eu véritablement pour ces esclaves qui n'étaient pas partis du Libéria. Ils sont partis d'un peu partout sur la côte atlantique, quelques-uns même depuis le Mozambique. Il y avait une véritable foi. Alors, il y a un personnage quand même qui lui est historique, dont il faudrait dire un mot, c'est ce fameux Paul Koffi. Koffi, alors tout le monde reconnaît que c'est Koffi, le nom Akan, qui est répandu en Côte d'Ivoire, dans toutes ces régions, qui lui, vraiment, a eu une sorte de foi, on pourrait presque dire une foi religieuse, hein, puisqu'il est un homme de religion, vous nous direz comment, qui voulait revenir pour, refaire une autre vie que la vie d'esclave.
Oui, le père de Koffi, qui s'appelait Koffi, comme vous le dites, a été affranchi par son maître. Et lui, il était la première génération. Il était venu directement d'Afrique, et quelques années après, il a été affranchi par son maître, qui était un Quaker, c'est-à-dire ce groupe particulier des protestants.
Qu'on appelle aussi la Société des Amis.
Oui, voilà, la Société des Amis, qui sont des espèces de puristes, hein, qui font, dans le protestantisme, une espèce de tendance zen, hein, extrêmement dépouillée. Et c'est eux qui ont été les premiers à affranchir leurs esclaves dans le nord de l'Amérique. Hein. On est dans les États de Nouvelle-Angleterre, on n'est pas du tout dans le sud. Ce Paul Koffi est né d'un métissage avec une mère indienne des îles de ce coin-là.
Ce qui est aussi une originalité, parce qu'on pense souvent qu'il y a les Noirs, les Indiens, les Blancs,
ouais,
mais la société
tout.
Est beaucoup plus complexe.
Oui, c'est-à-dire que tellement d'Indiens mâles ont été tués par les maladies et par les guerres, que les femmes indiennes ne rechignaient pas du tout à se marier et à avoir des enfants avec avec des Noirs. Il n'y avait pas de problème à ça. Et pour les mâles noirs, c'était des épouses toutes trouvées, puisqu'évidemment, il n'était pas question qu'ils aillent se mélanger avec les blanches, même dans ces pays, ces régions de l'abolition. Donc, le petit Paul Cuffy est devenu un marin, un homme, un armateur, et est devenu le noir le plus riche d'Amérique du Nord. Et nous, on a déjà du mal à comprendre ça. On pense de manière monolithique que l'Afrique, que l'Amérique, ce sont des esclaves et des maîtres. Là, pas du tout. Cet homme était dans la cité, dans la société des bourgeois et des intellectuels.
Nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, hein, début du XIXe.
On est là à la fin du XVIIIe siècle. Et cet homme rêve de lutter contre la traite des Noirs. Et comme c'est un marin de commerce, c'est un homme extrêmement pragmatique. Et il se dit, dans le commerce triangulaire, il faudrait pouvoir remplacer la base du triangle, c'est-à-dire le voyage d'Afrique vers l'Amérique, par des cargaisons plus morales que de transporter des humains. Et il sait que les marins de commerce ne renonceront à la traite que si on leur propose quelque chose qui rapporte plus que l'esclave. Et donc il se dit, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va permettre à des anciens esclaves émancipés, formés à des métiers utiles, évidemment formés religieusement, pour retourner en Afrique et là-bas créer une colonie capable de produire des denrées intéressant l'Amérique et qui finiront, comme le thé ou le café ou le cacao sur d'autres lignes maritimes dans le monde, finiront par être plus intéressantes que le commerce des humains.
Seulement, c'est facile sur le papier, parce que vous expliquez justement que ces anciens esclaves repartis en Afrique vont créer une sorte de caste, n'est-ce pas, une société fermée par rapport aux indigènes. Dès l'entrée de votre roman, d'ailleurs, vous décrivez la mort d'un journaliste, un personnage dont nous reparlerons ultérieurement, et vous décrivez donc cette société, comment dire, les gens sont guindés, ils jouent tous un rôle, et où, disons, les Américains d'origine sont entre eux, ils sont là à se montrer, et ils méprisent les Noirs indigènes, mais au même titre que du bétail.
Amis et assassins sont nombreux à l'enterrement du célèbre journaliste, écrivain, portraitiste, chroniqueur de la vie mondaine. Ici, tout est prétexte à sortir chapeau, claque, redingote et guêtre à boutons, robe de taffetas, gants et châle, chapeau à mantille. Julius Washington était un incontrôlable gêneur. Mais comme il fréquentait les plus grands de ce petit monde, le microcosme se doit d'être au complet pour l'adieu. Et pour s'assurer qu'il parte bel et bien, certains profitent de la sortie de la bière pour s'éclipser. Ils ont affaire. Ce sont les importants. Le gratin mulâtre. Révérends, politiciens et hommes d'affaires, en général tout à la fois, affranchis et éduqués bien avant de venir ici, seuls capables de prendre les rênes de la colonie. Restent les petits bourgeois, qui patientent pendant que le cercueil est chargé sur le brancard derrière quatre indigènes harnachés pour le tirer. Ni cheval, ni bœuf. Quel idiot paierait la traversée de l'océan à des animaux pour les voir mourir ici des fièvres alors que les autochtones sont si résistants et se contentent de si peu.
Quand on écoute ce passage, Christophe Néjon, vous expliquez que vous avez travaillé comme journaliste au Libéria. J'allais dire, on comprend un peu ce qui s'est passé dans les années 1990. On a l'impression qu'il y a eu une telle charge de violence, de haine, de mise à l'écart, parce que pendant longtemps, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les indigènes n'avaient pas le droit de vote.
Ah, pas du tout, ils n'étaient même pas citoyens. Parce que dans la Constitution de 47, pour être citoyen, il faut être propriétaire de terre. Or, la propriété n'existant pas, et la propriété étant interdite aux indigènes, de facto, les indigènes ne pouvaient pas avoir la nationalité libérienne. Voilà. Bon, ce qui s'est passé par rapport à l'idée originale de Paul Cuffy, qui lui voulait envoyer des gens pour créer une colonie utile à l'Amérique, l'idée a été reprise après la mort de Paul Cuffy en 1817, a été reprise par des planteurs du sud des États-Unis. Non pas pour mettre fin à l'esclavage, mais pour se débarrasser des Noirs en surnombre. Et ceux parmi les plus dangereux, c'est ceux qui étaient libres, qui se promenaient au milieu des plantations, sur les routes et dans les villes, et répandaient le mauvais exemple pour les pauvres types qui étaient, eux, enchaînés. Et donc, il fallait se débarrasser de ces nègres-là. Et donc, ils ont repris l'idée de Paul Cuffy. Ils ont utilisé la caution morale de cet homme, reconnu par tout le monde, pour réunir des fonds et faire partir sur des bateaux dans l'autre sens, alors que des bateaux de négriers traversaient l'Atlantique encore dans l'autre sens.
Oui, nous sommes
ils se croisaient,
au début du 19e.
Voilà, ils se croisaient sur l'Atlantique et eux allaient créer cette fameuse colonie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces esclaves n'avaient eu, bien sûr, aucune formation. Contrairement à l'idée de Paul Cuffy, ces esclaves sortaient étaient analphabètes la plupart du temps. Comment auraient-ils pu imaginer ce que c'est qu'une démocratie, ce que c'est qu'un État?
Ils vivaient dans une société de violence esclavagiste.
Exactement. Donc ils n'avaient comme modèle depuis des générations et des générations quand même, il faut le dire. C'est pas comme Cuffy qui venait directement d'Afrique. La plupart du temps, ils étaient américains depuis très longtemps, américains exploités, sous-hommes américains, si vous voulez, mais ils étaient quand même américains, avec la religion américaine, avec le modèle de réussite américain. Et une fois libres, leur idée, c'était, puisqu'ils n'étaient plus esclaves, c'était de devenir maîtres et de devenir comme les bourgeois qu'ils voyaient. Et dans le texte que vous venez de lire, ils voulaient avoir les belles robes de leurs anciens maîtres. Et quand ils sont arrivés au Libéria, ils étaient revêtus des oripeaux de la légende de la création de l'Amérique par les colons européens. Les Européens sont arrivés en Amérique, il y avait des indigènes, ils les ont écartés.
Ou massacrés.
Voilà, oui. poussez-vous de là que je m'y mette. Et ils ont créé l'Amérique. Et les Noirs qui ont fait le trajet inverse vers l'Afrique, ils se sont conformés à cette légende américaine en disant nous allons être, nous, les colons, et nous allons créer une Amérique en Afrique. Simplement, il y avait une grosse différence. C'est que, autant les Européens n'avaient rien à reprocher aux Indiens, on leur disait, fichez le camp de là, qu'on s'y mette, en Afrique, ils ont retrouvé ceux qui avaient vendu
leurs ancêtres
voilà. Et qui continuaient sur leurs yeux à vendre des esclaves, puisque la traite continuait, en tout cas pour l'Amérique latine. Et donc, leur mission était non seulement de créer cette colonie, mais de dominer et de se venger quelque part des indigènes. Donc, je parlais tout à l'heure d'un mensonge d'origine, d'un problème d'identité d'origine. C'est qu'en fait, ils croyaient être l'Amérique arrivant en Afrique, dominante. Et en même temps, on leur disait, ce sont vos ancêtres, ce sont vos frères. Et ce problème n'a jamais été résolu. D'ailleurs, les indigènes les ont appelés tout de suite les Blancs. Parce que la couleur n'y faisait rien à leurs yeux. Ce qui comptait, c'était la culture. Et ces anciens Africains qui revenaient d'Amérique, étaient pour eux des Américains.
Ben, merci beaucoup, Christophe Néjean. C'est l'entrée en scène d'un grand roman que nous allons retrouver dans une prochaine émission, roman intitulé simplement « Libéria roman ». Merci à vous d'être venu à notre émission « Mémoire d'un continent » réalisée par Olivier Raoul.